voisin, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupio.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, quel avenir pour Cuba? Près de deux semaines après la mort de Fidel Castro, le leader de la révolution qui a dirigé son pays d'une main de fer pendant 50 ans, depuis 2006, c'est son frère Raúl Castro qui a repris la main et opté pour une ouverture lente mais indéniable de l'économie de l'île, avec des changements palpables. Cela peut être un rocker aux cheveux longs qui vibre encore en repensant au concert des Rolling Stones donné en mars dernier, un événement impensable hein, il y a quelques années encore. C'est un ancien fonctionnaire qui torréfie son café pour le vendre, heureux d'être enfin à son compte. Ou bien même une famille qui communique avec un fils aux États-Unis et qui peut le voir en vidéo par écran interposé grâce à la borne Wi-Fi d'un parc de la Havane. Quelles attentes, quels espoirs pour les Cubains et notamment pour les jeunes, hein, des jeunes plus sensibles à la hausse de leur pouvoir d'achat qu'aux promesses de la Révolution. Ils ont soif de voyage, désormais autorisé, soif d'entreprendre aussi et bien sûr soif d'être connecté, portrait d'une île en attente d'un décollage espéré, mais qui tarde un peu à venir, entre frustration, impatience et résignation. On en parle avec nos invités du jour. Bonjour Adonis Liranza.
Bonjour.
Vous êtes cubain, exilé en France depuis près de 15 ans et producteur de documentaires. Anne-Étienne, bonjour.
Bonjour.
Vous avez co-réalisé avec Damien Cini Cumano, un documentaire à la rencontre de Cubains, des Cubains de tout profil. Hein. On trouve des rappeurs, des agriculteurs, en passant par le graffeur contestataire jusqu'à la femme au foyer. Cumano, c'est un mélange de Cubains, Cubano et humain, c'est ça?
Oui, exactement.
Et vous, les voisins, les voisines, qu'en pensez-vous? Comment voyez-vous cette ouverture à Cuba? On attend vos appels, vos points de vue, vos questions pour nos invités, si vous en avez, au 33 1 84 22 71 71. Et vous pouvez bien sûr nous écrire hein, sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Anne-Étienne, vous avez donc tourné un documentaire à Cuba. Qu'est-ce qui a pu vous frapper pendant votre visite sur l'île, vos visites sur l'île qui ont mené donc à ce documentaire?
Alors effectivement, ce qui m'a frappé, c'était pas forcément pendant le tournage du documentaire, mais plutôt mes voyages précédents. J'y suis allée pour la première fois en 2011. J'avais 25 ans à l'époque, je venais de terminer mes études. J'avais déjà beaucoup voyagé. J'avais l'âme créative et artistique peut-être, mais j'avais fait des études d'abord scientifiques, puis dans le commerce, enfin très terre à terre. Et ce qui m'a frappée, c'est que Cuba, mais surtout les Cubains, le peuple cubain, c'est le seul qui m'a donné confiance en mon potentiel justement créatif et artistique. Je pense que sans ce voyage à Cuba, j'aurais jamais réalisé de documentaire.
Et qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer de la vie sur l'île? Puisque ce qu'on voit dans le documentaire, ce sont de nombreux Cubains dans différents endroits de l'île, avec différents profils, différentes situations.
Alors j'ai voulu avant tout sortir de tous les clichés qu'on pouvait avoir sur Cuba, ou en tout cas essayer de le faire. C'est-à-dire que il n'y a pas que les belles plages, la salsa, les cigares, les vieilles voitures. Il n'y a pas non plus que La Havane ou Santiago, qui sont les plus grandes villes de l'île. Il y a des Cubains d'un bout à l'autre de l'île qui vivent soit à la ville, soit à la campagne, qui sont jeunes ou plus vieux, qui ont tous des aspirations différentes et voilà, qui ne sont pas tous dans le cliché qu'on nous vend au quotidien sur Cuba, ce qui donne envie d'y aller en vacances. Je voulais vraiment montrer le dessous de la carte postale.
Et aujourd'hui, vous avez des liens avec Cuba, puisque vous êtes mariée à un Cubain qui vit avec vous en France. Que vous raconte votre belle famille, du coup, qui est encore à Cuba, de son quotidien, et notamment de son quotidien depuis l'ouverture économique du pays?
Alors, j'ai effectivement ma belle-mère et ma belle-sœur qui sont à Cuba, plus toute la famille de mon mari. Je suis en contact régulier avec ma belle-mère, environ deux ou trois fois par semaine, par mail. Je travaille sur un nouveau projet de documentaire pour lequel j'ai interrogé justement ma belle-mère en 2015. Donc on était quelques mois après le début de l'ouverture à laquelle j'ai envie de mettre des guillemets.
On en parlera, on lancerait effectivement cette ouverture-là.
Et je lui posais la question, je lui disais alors, tu sais, en France, tout le monde pense qu'il y a de gros changements à Cuba. Est-ce que tu penses que ça a changé? Elle m'a regardée en me disant, moi, tant que je serai payée en pesos et pas en dollars, rien n'aura changé.
Puisqu'on a deux monnaies hein, à Cuba, voilà. Le pesos cubain et le CUC, qui est en fait équivalent du dollar. Et ces deux monnaies, on a une monnaie qui est utilisée par l'essentiel de la population qui vit dans de très mauvaises conditions. Et la monnaie convertible en dollars est effectivement la monnaie plutôt utilisée par les travailleurs indépendants et plutôt riches en général.
Alors, oui, enfin... plutôt riche, ce serait à nuancer, mais effectivement, la monnaie convertible, c'est celle qui est utilisée par les personnes qui ont pu ouvrir des commerces, par les personnes qui travaillent dans le tourisme. Après, comme la majorité des personnes fonctionnaires, ils sont tous payés en monnaie nationale. Pour donner un ordre d'idée, ma belle-mère est payée 2800 pesos, à peu près, ce qui est un gros salaire pour Cuba, c'est à peu près 4 fois le salaire moyen. Mais ça représente 80 dollars alors qu'elle est médecin, elle a un poste très, très élevé à responsabilité et elle me disait si j'étais payée 2800 dollars, pour moi tout irait très bien. Effectivement, ça lui permettrait de venir nous voir régulièrement en France, de faire plein de choses qu'elle ne peut pas faire.
À Denis Liranza, vous êtes exilée en France depuis 2001. Pourquoi être partie de Cuba ?
Je suis parti d'abord pour une question politique, c'est-à-dire je n'étais pas d'accord complètement avec ce que le gouvernement cubain était en train de faire, ce que le gouvernement cubain avait fait et ce que le gouvernement cubain était en train de planifier de faire. C'est la base, c'est cette décision. Je suis passé par une étape d'illusion, comme tous les Cubains. Nous avons vécu... toutes ces choses qui aujourd'hui font que Cuba soit connu et que aussi parfois on doit quand même mettre entre guillemets, et qui est la santé, qui est l'éducation, qui est les sports. Et puis, un bon jour, en début de mes 16-17 ans, je commence à apprendre des choses. Je commence à me poser des questions. Et ces questions ne trouvent pas de réponse. Ils n'ont jamais trouvé de réponse les 10 années qui ont suivi. C'est à l'âge de 27 ans que j'ai dû quitter Cuba.
Vous êtes parti en fait plutôt par désaccord politique aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de la politique d'ouverture qui est affichée par le gouvernement cubain ?
Il faut se demander, et surtout je pense peut-être qu'Anne-Étienne disait entre guillemets tout à l'heure par rapport à l'ouverture, parce qu'il faut voir ou se demander vers quoi et avec qui. C'est important de situer ça. De la même façon que pour considérer cette ouverture, il faut situer les Cubains. Ces Cubains d'à pied de tous les jours. Ma mère, ma tante, les autres, la belle-mère d'Anne-Étienne.
Les Cubains dont le salaire moyen est de à peu près 20 euros par mois.
Exactement.
Alors on va parler, avant de parler de ces Cubains-là, des nouveaux riches Cubains qui se montrent dans les rues de la Havane. Certains y promènent leur chien, le poil soigné, tout juste sorti de toilettage. Car oui, il existe des salons privés de toilettage pour animaux de compagnie. Preuve s'il en fallait de la libéralisation partielle de l'économie de l'île depuis 2010, notre correspondante Clara White s'est rendue dans un de ces salon.
Il y a des casques séchoirs à gauche, au fond de la pièce une douche baignoire avec de l'eau chaude, l'air conditionné est réglé au max, le tout au milieu de grands miroirs accrochés au mur rose. On est bien à Cuba, mais chez iDog, un salon de toilettage. Cet ancien garage a été réaménagé il y a 3 ans par des amoureuses des chiens.
Elles sont fanáticas de Apple.
Elles sont folles d'Apple alors. Elles ont leur iPhone, elles ont leur iPad, leur iPod, leur MacBook. C'est sûrement pour ça qu'elles ont baptisé leur salon pour chiens iDog.
Elle, c'est Yanesis. Elle est éleveuse de chiens et travaille à mi-temps dans cette boutique, notamment avec Yaomi, qui s'occupe en ce moment de coiffer un client.
Une coiffure particulière ?
Une coiffure d'été, parce qu'il fait très chaud. Le maître veut que le poil soit court pour que le chien ne souffre pas trop de la chaleur.
Et qui sont vos clients ?
Des Cubains, des étrangers. Tous les jours, il y a un nouveau client qui vient.
5 personnes font la queue cet après-midi. On rencontre Mercedes de Nice, une Cubaine apprêtée, aux cheveux teints, aux ongles peints, qui tient son chien Suki dans ses bras.
Suki vient toutes les semaines. Elle a besoin d'une visite hebdomadaire au salon pour que son pelage se maintienne.
Et comme ça, elle est propre. C'est important parce que Suki est tout le temps avec moi. Elle dort même avec moi dans mon lit. C'est pour ça que je l'emmène ici chaque semaine. Et puis, c'est devenu un rituel pour elle. Quand elle est ici, elle sait ce qui l'attend. Elle connaît ce salon.
Et vous venez toujours en famille ?
Ma fille a deux petits chiens. Un pékinois et un tibétain. Ils viennent ici une fois par mois et font tout. Des bains, on leur brosse les dents, on leur lave les oreilles, on leur coupe les ongles. Et ça se passe très bien ici avec leurs tantes.
Les tantes, dont parle Mercedes, ce sont les employés d'iDog.
C'est qu'aujourd'hui, les gens commencent à se préoccuper plus de leurs chiens à Cuba. J'imagine que les gens s'informent plus, qu'ils voient qu'il existe des lieux comme celui-là pour leurs chiens. Il y a aussi un grand nombre d'émissions à la télévision sur le sujet. Je pense que les gens les regardent. Sur l'éducation d'un chien, sur l'entretien dont il a besoin, sur son alimentation ou sur l'esthétique.
Ce n'est pas seulement grâce à ces feuilletons télé, à mon avis. Les Cubains voyagent de plus en plus dans d'autres pays. Ils sont en train de s'ouvrir au monde, de se cultiver.
Les Cubains peuvent voyager sans autorisation officielle depuis 2013. Mais le mari de Mercedes est espagnol. Ce qui a permis à sa femme de voyager à plusieurs reprises en Espagne, où elle dit avoir vu des chiens Shih Tzu réellement moins bien entretenus que le sien.
Voyons, normalement, les soins pour Suki, ça me coûte entre 12 et 15 CUC, entre 11 et 14 euros. Le prix du chien dépend de son pédigré. Cela dépend si vous le voulez pour la compétition ou pas. Le prix varie beaucoup, mais il faut au moins compter 230 euros. C'est un chien qui coûte cher. En fait, c'est comme une voiture. Une voiture, tu l'achètes cher et ensuite il faut payer l'entretien. Il faut tenir les comptes. Si ton chien prend un bain une fois par mois, cela a un coût. Mais de toute façon, mon chien a besoin d'un toilettage.
Depuis janvier 2014, les Cubains peuvent acheter une voiture sans autorisation gouvernementale, ce qu'en fait ils ne peuvent pas, car le prix est élevé. Celle de Mercedes est garée dans la rue. D'habitude, Mercedes attend le retour de Cubains installés à l'étranger qui lui ramène l'huile dont elle a besoin pour les poils de Suki.
Ce n'est pas seulement un problème économique, c'est qu'il n'y a aucun endroit dans le pays où on peut s'en procurer.
En attendant, elle se satisfait des produits d'iDog. Ici, elle a trouvé un endroit où elle peut dépenser son argent comme bon lui semble, dans un pays socialiste en pleine transition économique.
Reportage à Cuba de Clara Wright. Je vous ai vu rire, sourire, Anne-Étienne. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce salon de toilettage pour chiens ?
Alors, moi, ça me paraît complètement irréel par rapport à la réalité que j'ai connue à Cuba. Après, ça ne m'étonne pas non plus que dans la Havane, qui est quand même la capitale, il y a des endroits comme ça. Ça m'a fait beaucoup rire, effectivement. J'ai très envie d'aller y faire un tour.
Les clientes sont des femmes au foyer, souvent mariées avec un étranger. D'autres sont des fils et des filles de parents ayant les moyens, qui peuvent donc dépenser sans compter. Adonis Liranza, vous voulez réagir ?
Moi, franchement, ça me fait halluciner, la vérité. Je pense que Cuba ne s'est pas arrêté d'être ce pays surréel qui vraiment on connaît. Et ça n'émettons pas que ce type d'initiative privée puisse exister. Par contre, dans un pays où vous avez du mal à trouver un peigne, une brosse pour votre enfant, j'ai vraiment du mal à voir ça comme une vraie avancée, comme quelque chose, de vraiment qui va porter à ce que la société cubaine a besoin dans ses ouverture dans cette évolution dont on parlait-on.
Peut-on parler à Cuba aujourd'hui d'une société, d'une classe moyenne émergente ?
Je pense qu'on ne doit pas penser en termes de classe moyenne comme on pense ici en France ou comme on pense dans un autre pays, allez, on va le dire, normal. Il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et il y a des gens qui sont richissimes. Ça existe à Cuba. Mais les gouvernements, ils veillent. Et récemment, on l'a appris par les news, et qu'il y avait une nouvelle opération contre ces gens qui ont beaucoup d'argent. Ce qui a été fait déjà dans les années 90. C'est une espèce de purge. C'est-à-dire, on veut faire du commerce, étant donné que Cuba, à la fin, c'est un capitalisme monopoliste d'État. Et on veut que ça soit que pour eux, que ça soit que les sociétés d'État. Et donc, du coup, là, je vois une grande contradiction et un problème, un énorme problème.
On aurait donc dans le pays une élite et puis le reste de la population, la majorité. On va écouter un extrait de votre documentaire, Kumano, Anne-Étienne. 7 milliards de voisins, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71, les voisins.
« 7 milliards de voisins. »
C'est sur RFI.
Tu ne peux rien faire avec ton salaire, rien du tout. On vit dans une monotonie, dans un esclavagisme existentiel ici. On travaille des semaines entières et on ne peut pas s'offrir le luxe de sortir le week-end. Parce que sans argent, on ne peut rien faire. Encore pire, tous les 6 mois ou tous les ans, même en travaillant toute l'année, tu ne peux pas planifier des vacances dignes de ce nom, même pas ça. C'est une situation chaotique, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que le voient la plupart des Cubains, chaotique et terrible.
On vient d'entendre Raudel, rappeur cubain, l'un des personnages de votre film. On voit qu'un salaire cubain, Anne-Étienne, ne suffit pas à avoir une vie décente.
Non, je ne pense pas, effectivement. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui à Cuba encore des gens qui, je crois, vivent uniquement avec leur salaire. Autour de moi, je connais surtout des gens qui vivent de leur salaire, mais aussi de débrouille, c'est-à-dire qu'ils revendent tout ce qu'ils ont chez eux. Ça peut passer par une paire de chaussures, un vêtement, un appareil, un téléphone, je ne sais pas, n'importe quoi. Et aussi, souvent, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Cubains à l'étranger, et dès qu'ils peuvent, ils envoient de l'argent à leur famille, sachant qu'en n'envoyant pas grand-chose, on peut les aider énormément. Je veux dire, sachant que le salaire moyen est d'environ 20 euros, on peut doubler leur salaire relativement facilement quand on a un salaire correct en Occident.
C'est ce qu'on appelle les remessas, cet argent envoyé par la diaspora qui constitue l'une des principales ressources du pays. J'aimerais aussi qu'on parle des biens de consommation courante. Quel accès ont les Cubains à ces biens-là, Anne-Étienne ?
Je vais vous donner un exemple concret, puisqu'on a un appartement avec mon mari à La Havane. J'y suis allée avec notre fille qui avait 7 mois au mois de mai dernier, donc 2 semaines. Au mois de mai, il fait déjà très chaud, il faisait environ 35 degrés. Et on a mis, sur 2 semaines, on a mis 8 jours à trouver un frigo. C'est-à-dire que j'étais avec un bébé sans frigo à La Havane pendant 8 jours. Pourquoi ? Parce qu'un frigo neuf coûte, et le frigo de base, hein, vraiment le premier prix, c'est environ 700 $. On avait bien sûr pas les moyens de mettre 700 $ dans un frigo parce qu'on devait acheter aussi des meubles et d'autres choses pour l'appartement. Un autre exemple encore bien concret, on avait besoin de couches. J'avais ramené un petit stock de France, mais qui a fini par s'épuiser. Sachant que ça peut s'avérer difficile à trouver, je m'y suis prise quelques jours à l'avance. Pendant 3 jours, j'ai rien trouvé. Il me restait 2 couches à la maison et j'ai trouvé quelqu'un qui vendait des couches dans la rue à côté d'un centre commercial. 20 $, donc un salaire. 20 $ le paquet d'une quarantaine de couches. J'étais soulagée parce que j'étais presque au bout de mon stock. Sauf que quand je les ai mises à ma fille, à un moment, je l'avais sur les genoux et je me suis retrouvée trempée avec une flaque par terre. Et
donc,
ce
n'était pas des couches de bonne qualité.
J'ai cru que j'avais oublié de lui en mettre et en fait, non, tout simplement, il y en avait. Elle ne fonctionnait pas.
Et ça s'explique aussi parce que ce sont des produits qui sont pour l'essentiel importés, d'où leur rareté et leur prix élevé. Vous restez avec nous, Anne-Étienne, Adonis Liranza. On vous retrouve juste après le flash. Nous parlerons rock avec des rockers fiers d'être cubains et pourtant bien loin de l'homme nouveau imaginé par Fidel Castro. Le rock avait été interdit à Cuba dans les années 60, associé à l'ennemi américain. Comment le pays se transforme-t-il peu à peu ? Quel rôle peuvent jouer les jeunes dans cette conquête de liberté au pluriel et notamment de la liberté économique ? Les voisins, les voisines, vous restez avec nous. À tout de suite dans 3 minutes.
Sept milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez pour une immersion à Cuba.
plus de 50 ans après la révolution castriste. Que reste-t-il de ces idéaux ? À quoi aspirent les Cubains dans une société qui s'ouvre chaque jour un peu plus à l'économie de marché, à l'esprit d'entreprise ? Près d'un demi-million de Cubains travailleraient aujourd'hui à leur compte. Un chiffre qui ne fait que grossir depuis l'autorisation contrôlée des commerces privés. Après la mort de Fidel Castro qui a régné d'une main de fer sur son pays, quel changement attend la jeunesse cubaine ? Bref, comment va Cuba après l'ouverture ? On en parle avec nos invités. Anne Etienne, documentariste, co-réalisatrice d'un documentaire à la rencontre de Cubains, Cumano, hein, c'est son titre, et avec Adonis Liranza, exilé cubain en France depuis 15 ans et producteur de documentaires. Mais tout de suite, reportage. À Cuba, la musique est partout, surtout le reggaeton, un mélange de rap, de reggae avec des sonorités très latino et un rythme particulier. Choisir de faire du rock, c'est se distinguer. Le rock avait été interdit en 1961, puis simplement marginalisé, associé à l'impérialisme américain. Mais depuis 2007, une agence de rock cubain a été créée dans le pays. Dans la capitale, des lieux pour amateurs de rock ont même été autorisés. Fini donc l'interdiction des Beatles. Ils ont même leur bar privé dans le Vedado, un quartier jeune de la Havane. Le bar s'appelle le Submario Amarillo, d'après The Yellow Submarine, un titre très connu des Beatles. On y retrouve notre correspondante Clara Wright.
La voix qu'on vient d'entendre, c'est celle de Lizzie. Elle a 25 ans, elle a créé il y a 3 ans son groupe de rock à La Havane. Il joue chaque semaine au Submarino Amarillo. C'est un bar qui se consacre depuis 4 ans à la diffusion du rock.
Quand tu vois le public ému par les chansons que tu es en train de jouer, tu te rends compte qu'ils s'amusent. Dans ces moments-là, ils font ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant, à leur époque.
Au Submarino Amarillo, on a rencontré d'autres musiciens comme Noah. Il était dans le public à écouter Lizzie chanter et il nous a dit qu'il travaillait à monter un nouveau groupe car il veut participer à l'affirmation du rock cubain. On est en route pour chez lui.
Hola.
Buenas, ¿cómo estás?
Hola, pasen, pasen.
On arrive dans un petit appartement avec un ordinateur pour écouter sa musique et sa guitare. Noah est le chanteur du groupe. Noah est en train de nous mettre sur son ordinateur une de ses chansons en espagnol. De qué hablas? De quoi ça parle?
La chanson raconte notre société moderne et les Cubains qui sont attirés par la société de consommation qui se développe à Cuba. Mais le langage n'est pas très direct. On peut s'opposer à cette société de consommation de façon artistique en travaillant les paroles. Aujourd'hui, le rock n'est plus subversif. On ne connaît plus les problèmes que connaissaient les artistes dans les années 60-70. Mais socialement, c'est toujours mal vu d'être chanteur de rock. D'ailleurs, quand on te demande qu'est-ce que tu fais et que tu réponds je chante dans un groupe de rock, tout le monde te regarde avec surprise, avec l'air de dire aïe, le rock. Il y a des groupes qui ont réussi, comme Zeus par exemple, qui est devenu un groupe très important dans le pays. Il a tracé son propre chemin sans dépendre d'aucune entreprise et surtout d'aucune institution du gouvernement. Ils ont simplement joué leur musique et ont trouvé leur public. Ils ont prouvé que les Cubains aiment le rock.
Alors on a cherché à en savoir un peu plus sur ce groupe fondateur du rock cubain sur l'île. Le chanteur s'appelle Dionisio Arce. Encore aujourd'hui, c'est une star nationale pour tous les âges parmi les amateurs de rock. Et il a bien voulu nous accueillir.
Quand on a commencé au début des années 80, le gouvernement ne comprenait pas comment nous pouvions réunir 4000, 5000 personnes à chacun de nos concerts sans aucune publicité à la radio ou à la télévision. Aucune. On n'a jamais eu le droit à aucune promotion. À ce moment-là, les groupes ne jouaient pas de reprises, ils composaient leur propre musique et cela a eu un impact très positif sur notre mouvement à l'intérieur du pays. Il existait alors un centre culturel qui s'appelait Pasillo de Maria, mais il a été fermé dans les années 90. Ensuite, le ministre de la Culture nous a ouvert un espace qui s'appelle le Maxim Rock. C'est devenu la maison du rock cubain. Mais cela fait 9 mois qu'ils le maintiennent fermé, prétextant des réparations qui ne donnent rien.
Era como un sitio donde había Ce
n'était pas simplement une salle de concert, c'était aussi un endroit où l'on pouvait dialoguer. En plus de la musique, étaient aussi organisées des projections de films dans la salle. C'était comme un lieu pour socialiser, pour la jeunesse qui était là au départ pour le rock'n'roll. Mais comme toujours, l'embargo américain, qui n'est toujours pas levé, est utilisé pour justifier tous les problèmes qui ne peuvent pas être résolus dans le pays. C'est la réponse qu'on entend toujours de la part des autorités. Vous allez voir, du calme. Tout va s'arranger. J'ai 51 ans et j'entends toujours le même discours. Aujourd'hui, je suis fatigué de l'entendre. Faire du rock à Cuba, c'est s'élever à tout moment contre la bureaucratie, ses pratiques et tous ses travers. En fait, le rock me fait me sentir vivant, actif. Je suis constamment en train de tenter de discuter avec les bureaucrates de ce pays. C'est comme si je bataillais tout le temps avec eux. C'est une lutte qui ne s'arrêtera jamais. Écoute, je vais te mettre une chanson. La chanson raconte ces femmes qui viennent dans le centre de La Havane, la capitale, pour se prostituer. C'est un phénomène de société très actuel. Elles viennent quand elles sont jeunes à La Havane, à la recherche d'argent, parce qu'elles ont beaucoup de problèmes. Alors elles se prostituent. Nous parlons dans nos chansons de ce qui se passe dans notre société au quotidien. Il y a aussi une chanson qui s'appelle Dollar. Elle dit « Je te cherche, Dollar, où es-tu? Je t'appelle, viens là ». Vous comprenez, c'est le type de chanson que nous écrivons, que nous chantons sur ce que nous vivons jour après jour.
Des chansons sur la prostitution dans les rues de La Havane ou sur ce dollar qu'on recherche désespérément. Adonis Liranza, qu'est-ce que ça vous inspire, ce reportage ?
Et je trouve que, en tout cas, les gens sont en train de, les interviewés sont en train d'exprimer vraiment quelque chose qui se passe et à Cuba aujourd'hui. Je vois comme point commun ça dans les deux reportages et déjà. C'est-à-dire que les rocks, particulièrement, qui étaient interdits, et à Cuba, les Beatles, comme on sait aujourd'hui, ont été interdits. Mais les rocks, quand même, a trouvé toujours un espace. C'est un espace contrôlé. Je me souviens des années 90, où il y avait déjà un petit festival qui s'est organisé par une association qui était les bras et culturels, on va dire, de la jeunesse communiste. Mais c'est toujours très, ça a été toujours très peu. Et puis, il y a, dans les rocks, une charge idéologique mal donnée, qui fait que beaucoup de gens, comme dit cette personne qui est interviewée, et qui rejette le fait que quelqu'un dise « je chante du rock ». Et pourtant, c'est une manifestation comme les rap ou la salsa ou autre.
Ça reste mal vu.
Ça reste mal vu.
Dans la société.
Ça reste mal vu.
Vous êtes plutôt, Anne-Étienne, vous, intéressée par le rap cubain, oui. Il me semble. Et je crois savoir qu'il y a une agence de rap cubain qui existe également.
Oui, voilà, de même qu'il y a l'agence de rock cubain, il y a l'agence de rap cubain. Et comme disait Adonis, c'est vrai que ça reste un espace contrôlé. C'est-à-dire que ça permet aux rappeurs de se produire officiellement et d'être payés, en dollars d'ailleurs. Voilà, si on écrit des paroles qui dérangent un peu trop, on est rapidement viré de l'agence. Raoudel, qu'on entendait tout à l'heure dans l'extrait du documentaire, un coup il fait partie de l'agence, un coup il n'en fait plus partie.
Dans le reportage, on entend aussi parler de l'embargo américain qui serait une excuse pour toutes les mauvaises nouvelles annoncées par les autorités cubaines. Cet embargo est en place depuis 1962. Barack Obama l'a allégé. Le président américain s'était même engagé à le lever. Vous retrouvez ça, Adonis Liranza, la présence de cet embargo et le fait que ça soit autant utilisé comme argument par les autorités cubaines pour justifier des décisions ?
Oui, tout à fait. Mais à Cuba, on l'appelle blocus. Pourtant, il n'y a personne bloqué. Il n'y a jamais eu, depuis 1962, personne bloqué parce que les commerces ont continué de se faire. Dans le début des années 2000, et pourtant, on le répétait depuis très longtemps, on a trouvé dans les statistiques de l'Organisation mondiale du commerce que, quand même, les États-Unis étaient les cinquièmes partenaires économique de Cuba. Et alors, je me demande où est le blocus. Le blocus dont il parle, c'est un blocus dans la tête des gens, dans les élites dirigeantes, dans l'intolérance. C'est ça les blocus. Sinon, nous, on l'appelle plus correctement l'embargo. Certes que, et à cause de cet embargo, il y a eu beaucoup de choses qui ne sont jamais arrivées à Cuba. Que ce soit en matériel médical ou en matériel pour l'éducation, que ce soit en nourriture ou que ce soit dans l'industrie. Certes, il y a ça. Mais le gouvernement cubain s'est occupé tout le temps, parce qu'il faut toujours un ennemi, de dire que c'est à cause des autres, c'est à cause de l'empire, c'est à cause de l'embargo, c'est à cause du bloqueo.
Comme on dit là-bas. Depuis 2013, les Cubains ont le droit de voyager sans permis. Qu'est-ce que cela a changé, selon vous ?
Ben écoutez, et quand j'ai lu ici en France ces nouvelles, et je me suis dit tout de suite que c'était des nouvelles et dans la surface. Pourquoi ? De une, parce que quand on a donné la nouvelle de qu'un Cubain pouvait aller dormir dans un hôtel, ce qui était interdit, personne n'a parlé de que quand même une nuit d'hôtel vaut 80 dollars. Alors comment arriver à cet hôtel ? Comment un Cubain va aller à cet hôtel ? Dans les premiers reportages, quelqu'un parlait des voitures. Certes, l'année dernière, j'ai lu un rapport du gouvernement cubain disant que, d'ailleurs, qu'il s'est plaigné du peu des ventes des voitures. Mais je vais vous dire pourquoi. Ils ont vendu, dans l'année 2015, 50 voitures. Mais pourquoi ? La moins chère, la Peugeot, voiture française, à 167 000 dollars.
Ah oui, c'est un prix incroyable.
Donc, à partir de ça, à partir de qu'on voit ces chiffres et ces choses, on dit, bon, bah, on peut pas, il faut que quelqu'un soit fautif. Mais c'est ça qui s'est passé, les derniers 57 ans à Cuba. On a toujours besoin d'un ennemi. Il faut blâmer quelqu'un.
Et beaucoup de choses restent inaccessibles pour les Cubains. Alors depuis 2010, les Cubains peuvent travailler à leur compte dans 180 professions supplémentaires, donc c'est-à-dire en indépendant. Ça exclut toutes les professions libérales, médecins, avocats, ingénieurs. Ces auto-entrepreneurs se voient prélever un impôt de 10% sur leur chiffre d'affaires. Mais voilà, depuis 2010, on a près de 500 000 business qui ont été lancés par des Cubains jeunes et moins jeunes. Anne-Étienne, comment vous voyez ce phénomène-là ? Est-ce que vous en avez eu des échos ? Quelles traces vous voyez de ça quand vous allez à Cuba ?
Alors, c'est un peu à double tranchant. C'est vrai que ça permet... Enfin, je ne sais pas. Moi, je pense aux gens qui vendent des copies de CD piratées légalement, du coup, parce qu'ils ont le droit de le faire. Ou alors, oui, il y a des gens qui ouvrent des petites boutiques de vêtements, etc. Mais je dis que c'est à double tranchant parce que comme ça exclut les professions libérales, par exemple... notre appartement à mon mari et moi qu'on a à La Havane est au nom de ma belle-mère puisque mon mari et moi-même ne pouvons pas être propriétaires légalement. Et ma belle-mère étant médecin, on n'a pas le droit de le louer. On ne peut pas le louer parce qu'elle n'a pas le droit de demander la licence pour louer son propre bien.
Parce qu'elle travaille pour l'État.
Parce qu'elle est médecin pour l'État. Voilà. Donc...
Oui, on reparlera de ces difficultés-là et des défis aussi qui attendent Cuba. 7 milliards de voisins, on se retrouve dans un instant après Acompáñanos de Kumar. Chimaya, abre tu mar, quiero probar tus besos de sal. Sirena dormida de llantos y partidas, canto que me convida mar adentro, más adentro. Siento la brisa que me da el aliento, con tanta prisa y viento lento. Peces cómplices del intento, solo sobreviviendo alcanzo libertad de sentimientos. Me lanzo fuerte abrazo, anclas quedan en la orilla y ambos caen de rodillas implorando bendiciones, con razones, no se sabe qué preparan próximas estaciones, detrás frustraciones, delante nuevas canciones, sutil equipaje de improvisaciones. We'll be right back.
7 milliards de voisins, on parle de Cuba aujourd'hui. Cuba depuis l'ouverture, Cuba où l'accès à Internet est toujours très limité. Seulement 5% des foyers sont connectés. On estime qu'un quart des Cubains a accès à Internet, surtout sur son lieu de travail en fait. J'imagine, Adonis Liranzac, c'est difficile aussi de créer des start-up, des entreprises dans ces conditions-là.
Absolument difficile, absolument difficile. Une des raisons pour reprendre d'une certaine façon, c'est que j'avais commencé à dire en tant que motivation pour laquelle j'ai quitté Cuba et les côtés de l'entreprise. Et j'avais pu proposer de monter ma boîte et de payer un impôt. Je me suis à moi-même proposé pour payer 33% de mon revenu parce que j'ai travaillé en tant que producteur indépendant. Producteur indépendant à Cuba, pour moi, veut dire que j'ai travaillé en dehors de l'État, c'est-à-dire avec mes contacts privés. Et mais pour Cuba, ça veut dire que tu travailles pour l'ennemi. J'ai rigolé à pas mal de reprises en disant, ces dernières années, en disant, et j'attends ces fameux chèques de la CIA qui m'a payé.
Vouloir monter une entreprise, c'est vouloir travailler pour l'ennemi.
Voilà, ça c'est une des choses. Les droits d'association, que ce soit en termes d'association dans la société civile ou d'association économique, n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours voulu faire une société égalitaire et en se voilant la face. On a toujours ce dicton cubain qui dit « non se puede tapar el sol con un dedo ». On ne peut pas cacher le soleil avec un doigt, ce qui équivaut à... Notre c'est voilé la face ici en France. Mm. Et d'une certaine façon, c'est ça qui, pendant toutes ces années, s'est fait de la part du gouvernement cubain. Au-delà de ces faits, il y a aussi la possibilité de ne pas, d'avoir tout le monde sur la main, comme on dit, et de contrôler tout le monde, vous disiez, et du main de fer. Mm. Voilà. C'est ça qui s'est passé, c'est ça qui continue de se passer. Par rapport à l'évolution, par rapport aux choses à venir, vraiment, je suis très sceptique.
Ça semble en train de changer néanmoins avec cette ouverture et ces commerces privés qu'on autorise.
Certes, il y a ce type de changement, mais par exemple, dans cette fameuse liste des 1200 métiers, il y a remplisseur de briquets. Il n'y a pas de honte à remplir des briquets. Mais, messieurs, dames, ce n'est pas un vrai métier. Et l'argent que vous gagnez, c'est pour continuer à survivre. Ce n'est pas vraiment pour vivre, c'est pour résoudre, pour inventer. C'est deux paroles qu'on utilise beaucoup à Cuba, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Résoudre veut dire aussi voler. Je vous dis, je vais donner un exemple pour que ça soit vraiment clair. J'ai travaillé en tant que journaliste à la télévision. À l'époque encore, il y avait des VHS. Mon boss, il avait des cassettes VHS. Mon boss, il avait des cassettes VHS dans son bureau. Moi, je savais que mon voisin, c'est lui qui louait des cassettes VHS avec des films, avec des telenovelas. Lui, il achetait des cassettes. Les prix d'une cassette VHS étaient de 4 $. Moi, en prenant... J'étais en train de résoudre juste un problème. Et quand j'ai pris la cassette VHS du bureau de mon boss, une cassette vierge, et que j'étais la vendre à mon voisin à 2 $, ben, j'ai résolu, à l'époque, 4 jours de nourriture.
Vous avez vous-même, en fait, dû vous débrouiller. Et
là-bas,
un système D
il faut
le
dire clair, on dit la débrouille, on dit résoudre, on dit inventer. Mais soyons clairs, messieurs, dames, il s'agit du vol. C'est un gouvernement qui tolère et qui laisse que ses citoyens les volent. C'est vraiment hallucinant pour moi.
On a certains Cubains qui créent leur business, d'autres qui choisissent de partir aussi, hein, quittent à risquer leur vie, ils partent en bateau, passent par l'Amérique centrale. En 2015, 43 000 Cubains sont entrés sur le territoire américain, un chiffre record. Et ce sont surtout des jeunes de 20 à 45 ans. Anne-Étienne, que veulent les jeunes Cubains, selon vous, aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils espèrent ? Qu'est-ce qu'ils attendent ?
Je pense que très basiquement, ils veulent... C'est vrai qu'ils sont attirés par la société de consommation. Ils veulent un beau portable. Je pense qu'une voiture, ils n'en rêvent même pas encore parce qu'ils en sont vraiment loin. Mais des beaux vêtements, c'est... Oui, c'est un peu basique. Après, ils se font une idée de l'Occident qui est souvent fausse. Ils pensent que tout est facile, qu'on a beaucoup d'argent... Voilà, sauf qu'ils oublient que même si notre salaire moyen à nous, c'est peut-être 20 fois leur salaire moyen, nous, on doit payer des loyers aussi très chers, etc. On a des factures à payer. À Cuba, la plupart des gens vivent à plusieurs générations dans une maison. Ils n'ont pas de loyer à payer. C'est vrai que les factures d'électricité et de gaz restent relativement peu chères. Les jeunes à Cuba ne se préoccupent pas beaucoup de ces choses-là. Et moi, j'en parlais beaucoup avec mon mari quand il arrivait en France et qu'il s'est pris... si je puis dire, le capitalisme en pleine figure. Il a fallu que je lui apprenne à gérer un compte en banque, gérer son argent. Il n'avait jamais eu de compte en banque. Ma belle-mère était payée en liquide. Elle garde toujours l'argent sous le matelas. Enfin, c'est plein de choses de la vie moderne occidentale qui n'existe pas encore à Cuba. Parfois, il y a certains côtés de Cuba qui peuvent faire penser à la France d'après-guerre. Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir encore mes grands-parents vivants et souvent, leur manière de faire ou de me raconter les choses, ça me fait penser à Cuba aujourd'hui.
Mmh. Et les jeunes Cubains aujourd'hui, Adonis Liranza, sont attirés par cette société de consommation qui commence à se développer?
Absolument, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que où va aller notre pays? Où va aller? Avec quoi on va construire? Comment on envisage l'avenir? C'est vraiment dommage. Ça parle certes aussi de l'échec d'un système. Parce qu'un système, disons-le clair, où il n'y a pas de prof à l'école, et donc on va former un jeune homme ou une jeune femme de 16-17 ans en tant que maître, comme on dit, émergent, et allez, et on va les lancer dans une école, ça, pour moi, ça n'est donc pas... confiance dans l'avenir de la nation.
Pourtant, le régime cubain se vote aussi de son système éducatif qui est gratuit, de même de son système de santé aussi, qui peut être
écoutez,
vu comme performant.
Il y a à Cuba, et Fidel Castro ont su se créer une stature internationale qui fait qu'aujourd'hui, on puisse avoir des gens comme Madame Royal qui pensent encore que le socialisme est un arc-en-ciel.
C'est Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, qui a dit que Cuba n'était pas une dictature.
Là, vraiment, je pense que pour passer et continuer à parler de Cuba, et que peut-être Madame Royal devrait s'occuper de ses affaires et ses casseroles dans la région Poitou-Charentes, qu'elle a mal dirigée pendant des années.
Anne-Étienne.
Oui, moi, si je peux rebondir, c'est vrai qu'on avance souvent l'éducation et la santé à Cuba. Alors, peut-être qu'il y a 20-30 ans, ça fonctionnait. Mais aujourd'hui, je pense que ça ne fonctionne pas et que c'est une grande mascarade parce que, comme disait Adonis, effectivement, les maîtres d'école en primaire sont très jeunes. Ils viennent souvent de provinces éloignées de La Havane. Et le pire, c'est qu'ils sont remplacés aussi souvent par des télés. Moi, je suis passée plusieurs fois devant des salles de classe à La Havane et c'est des écrans avec des films, enfin des profs.
À la place de professeurs.
Voilà, à la place des professeurs. Alors, les professeurs sont là, hein, mais juste, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et puis, en ce qui concerne le système de santé, j'ai pas eu beaucoup de chance à Cuba, j'ai eu pas mal d'infections, donc je me suis retrouvée souvent à la clinique. La clinique pour Cubains, je ne suis jamais allée à la clinique pour étrangers. Donc j'ai été soignée et traitée comme un Cubain, c'est-à-dire qu'on fait des heures d'attente interminables et surtout c'est extrêmement archaïque. Enfin, qu'on ne vienne pas me dire que la médecine cubaine est avancée parce que... Et pourtant, j'aime Cuba, mais c'était le tiers-monde dans les cliniques cubaines. Alors, peut-être qu'il y a... Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins qui sont formés, mais il manque énormément de médicaments, de matériel, etc. Alors, certes, les Cubains n'ont pas besoin de payer pour être soignés, c'est vrai. Mais il faut voir la qualité du service.
Mais il y a d'autres progrès à faire.
Mais c'est à cause de l'embargo.
on revient sur l'embargo encore une fois, selon le gouvernement, l'argument du gouvernement cubain. Que va changer, ou qu'a déjà changé la mort de Fidel Castro à Cuba?
Pour moi, la mort de Fidel Castro n'échange rien. S'il y a un symbole pour les Cubains, pour une grande partie des Cubains, qui est mort. Mais c'est juste un homme. C'est-à-dire, c'est un homme, certes, qui a laissé son empreinte et qui va durer cette empreinte pendant très longtemps à Cuba. Mais chaque fois, chaque année, et avant sa mort, le 25 novembre dernier, on m'avait demandé, bon, et Adonis, qu'est-ce qui va se passer? Et ma réponse a été toujours la même, on va l'enterrer. J'ai pensé à l'époque qu'on allait faire une procession, mais avec lui embaumé, au style Lénine. Vraiment. Je me souviens qu'il y avait un film qui s'appelle Guantanamera, que c'est un film qui retrace un voyage de Guantanamo, de l'est du pays, jusqu'à La Havane. Mm. Juan Carlos Tavillo, film de 2000 ou 2001, je crois qu'il est sorti ici en France. Et bon, et là, on avait imaginé ça, mais voilà, rien ne va se passer. À Manon, il y a une pierre, ses cendres sont à l'intérieur, sa l'urne à l'intérieur de cette pierre, et on va continuer à l'école dire qu'il était le plus grand.
Et en quelques mots, donc pour vous, la mort de Fidel Castro ne va rien changer. Quel défi attend encore Cuba, en quelques mots, Adonis Liranza?
Cuba a un retard par rapport au monde, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui des 20-30 ans.
Il va falloir rattraper
et donc,
ce retard.
Les mots d'ordre, c'est rattraper ce retard.
Merci à vous Adonis Liranza, merci Anne-Étienne, merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Stephen Elsley, Cécile Lavolo, Camille Nérand, Didier Chérouse et merci à vous bien sûr, les voisins et les voisines. À demain et merci de votre fidélité.
Écho d'ici.